La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de la REF, ici toujours Porte d'Auteuil, au stade Roland-Garros, où nous allons encore une fois plus avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. 9h39, je pense qu'on va avoir une très belle journée.
Très belle journée avec de nombreux invités. Ça commence dès ce matin avec notre nouvel invité Éric Malenfer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être présent dès ce matin. Vous êtes président de Gexpertise, géomètre expert. Merci de répondre gentiment à notre invitation. Dans un immobilier qui construit moins et réhabilite davantage, connaître précisément l'existant devient évidemment stratégique. Mesurer, modéliser, diagnostiquer, exploiter la donnée du bâtiment conditionne désormais sa transformation et sa valeur. Éric Malenfer, le géomètre expert est un métier très ancien. Mais Gexpertise parle aujourd'hui de BIM, de SIG, de jumeaux numériques, de data. Votre métier a-t-il davantage changé en 10 ans qu'en un siècle ?
Vous avez tout à fait raison. En fait, moi, quand j'ai commencé en 91, il y a eu l'avènement du laser dans notre métier. Et en termes de mesure, ça a vraiment transformé notre accessibilité à la mesure. Avant, il fallait toujours prendre par intersection. Alors ça peut paraître très technique, mais ça montrait qu'il fallait beaucoup de temps pour prendre les mesures. Aujourd'hui, la mesure est très rapide. Avec d'ailleurs ce souci, c'est qu'on peut avoir des collaborateurs ou en tout cas quelquefois des compétiteurs face à nous qui sont un peu presse-boutons et il n'y a rien qui ressemble plus par exemple à un nuage de points qu'un autre nuage de points. Donc il est compliqué de faire comprendre à des clients la qualité de la mesure que nous pouvons prendre dans un monde très pressé où l'apparence peut-être suffire et un état de surface ressemble à un autre état de surface. Alors quelquefois sur des bâtiments, vous avez des dérives de plus de 20 cm au bout du bâtiment. Donc, notre métier a beaucoup changé, ça, j'allais dire, par la technologie. L'aérien, le drone qu'on voit sur des conflits, mais sert aussi de plus en plus pour nous, pour des relevés de toiture. Donc on met aussi moins nos collaborateurs en danger. Donc ça joue beaucoup. Toutes ces technologies ont énormément changé. Mais il y a surtout une chose qui a changé. C'est qu'on n'a jamais autant compris qu'il fallait construire sur l'existant. Que dans les 10 ans qui viennent, les bâtiments qui seront livrés, à 90% existent déjà. Il faut simplement les transformer. Et donc, notre métier a changé en ce sens que tout l'aspect juridico-foncier, qui était vraiment le cœur de notre métier, aujourd'hui a dérivé sur aussi tous les composants du bâtiment. Et c'est ça qui devient très intéressant, c'est que comment peut-on prendre en compte les composants d'un bâtiment pour le transformer au mieux, le réhabiliter, mais aussi pour réemployer tout ce qui peut être réemployé. Et donc, vous voyez, c'est une lecture un peu différente. Nous, c'est pour ça qu'au sein de Gexpertise, on est très pluridisciplinaire. Il y a des architectes, il y a des économistes de la construction. Il y a des personnes en fait qui savent lire un bâtiment quand un géomètre sait le mesurer.
Alors, c'est intéressant d'ailleurs que vous annonciez effectivement ce paramètre nouveau, enfin ce paradigme nouveau, puisque on voit bien que les métiers de la promotion classique, c'était hier, et qu'aujourd'hui on n'est plus le promoteur tel qu'on l'a connu aujourd'hui, et que finalement la fabrication de la ville, c'est qu'elle se reconstruit finalement d'un point de vue stratigraphique sur elle-même. Et avec aussi des modes constructifs à la fois innovants, accélérés par effectivement la technologie, mais surtout la qualité de vie et du bien-être des utilisateurs, ce qui est beaucoup plus vrai que ça ne l'a été dans une certaine mesure. Est-ce que finalement, selon vous, le fait que de toute façon le business demain, aujourd'hui, les leviers de croissance vont être la rénovation, la réhabilitation, la régénération urbaine, par nécessité qu'il a fallu finalement un choc d'une crise structurelle, de l'urbanisation, de l'imperméabilisation des sols, qui a fait qu'à un moment donné, toute cette économie-là a dû bien évidemment nécessairement se réinventer.
Oui, vous avez complètement raison. En fait, il faut toujours
crise,
un choc.
Finalement, elle n'était pas voulue, mais elle a obligé finalement, et quelque part, elle a presque été salutaire. On pourrait même dire que c'est une. Enfin, je ne vais pas dire que c'est une catastrophe bienvenue, mais il y a une vertu finalement dans tout ça, c'est d'avoir fait un reset de toutes les pratiques finalement qui étaient peut-être un peu dépassées.
Votre vision éternellement optimiste que j'adore. Non, vous avez raison que sans choc, on continue et on réitère ce qu'on faisait avant, y compris les erreurs. Donc forcément, il fallait cette prise de conscience que la société civile commençait bien à avoir. On se rendait bien compte qu'il fallait qu'on consomme moins d'espace et tout ça, qu'il y avait une lame de fond qui était là. La seule chose, c'est la brutalité avec laquelle tout arrive en même temps. Et autant la prise de conscience de la transformation de la ville sur la ville est une excellente chose, autant toutes les crises géopolitiques qui arrivent en même temps, les crises sur l'énergie, sur tous ces sujets-là, l'instabilité politique, quand ça vient s'ajouter à une transformation de fond d'un métier, ça fait un peu beaucoup en même temps, si vous voulez. Ça, c'est un peu compliqué. Par contre, clairement, il fallait transformer. Il faut beaucoup transformer. Il y a pas mal de personnes qui en parlaient extrêmement bien sur la mixité des usages. Alors, le droit d'urbanisme peine encore à suivre suffisamment rapidement. Alors, on parle beaucoup de la transformation de bureaux en logement. Mais la transformation de bureaux en logement, si on érige ça en unité seule permettant de s'en sortir, ne peut pas fonctionner. Vous avez des exemples de transformation de quartier qui sont vraiment intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont remis, elles ont mélangé du bureau avec de l'habitation, avec du social, de l'habitation en accession, de l'habitation avec du social, avec des commerces en pied. Donc en fait, ils ont recréé une vie. Une vie où il y a à la fois de l'activité économique, du sel, quoi, de la vente, de la vie, etc. Et des transports, évidemment, qui ne sont pas loin. Et c'est ça la formule qui marche plutôt pas mal. On a quand même beaucoup cloisonné pendant un moment, parce que ça rassurait. Donc on a cloisonné le logement dans un côté, on a cloisonné les bureaux à d'autres endroits. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est aussi des transformations d'usage et de mixité, avec de temps en temps des évolutions réglementaires qui ne sont pas simples, parce que la mixité qu'on est en train de créer aujourd'hui, demain, il faut se dire qu'elle sera encore différente. Et donc si on ne se donne pas la possibilité juridique de transformer cela, ça va être compliqué. Et puis comme on construit, et pardonnez-moi, j'en arrête là, comme on construit la ville sur la ville, des principes comme la division en volume, donc ces nouveaux modes, quoi, nouveaux depuis les années 70 quand même, excusez-moi, je ne suis pas tout jeune.
Vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire, de manière concrète, la division en volume ?
Oui, vous avez, on va dire, deux modes essentiels de division de l'immeuble, à part la division foncière, parce qu'il y a aussi la division par lot, mais on va parler. Il y a la mise en copropriété ou la division en volume. Dans la mise en copropriété, vous avez des parties privatives et des quotes-parts de parties communes. Il n'y a pas de servitude entre les lots, parce que on peut pas, quoi, vous ne pouvez pas avoir de servitude par rapport à des parties communes, puisque vous ne pouvez pas avoir de servitude sur vous-même. Donc, partie commune, code part de partie commune et partie privative. En division volume, c'est tout le contraire. Ce qui est différent, c'est que vous avez des volumes complets dont vous êtes totalement propriétaire et vous avez des servitudes entre les volumes. Donc il n'y a jamais de partie commune dans une division volume. Ce que vous pouvez avoir, c'est des équipements qui sont partagés au sein d'une ASL ou d'une AFUL.
Voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on approfondisse. Alors je vais vous donner quelques chiffres, mais vous les connaissez déjà. Le chiffre des défaillances d'entreprises en octobre 2025 a battu tous les records, 66 000. Sur le top 3 des défaillances, et c'est pas réjouissant, l'immobilier et la construction figurent sur le podium. Première chose, avec la restauration et l'hôtellerie notamment. On a un autre facteur qui est celui en fait de la demande d'offres comparée à l'offre, notamment sur le marché locatif privé, sur le marché du logement intermédiaire et du logement social, où là, c'est carrément une catastrophe. Il n'est pas rare de voir une offre pour à peu près 250 demandes sur Paris. Des écarts absolument phénoménaux pour des étudiants qui entrent sur le marché ou simplement qui essayent d'aller dans les grandes agglomérations pour se loger, avec des écarts et des restes à vivre qui sont aujourd'hui carrément inaccessibles. Et l'INSEE a classé le logement comme un produit de luxe. Et l'INSEE également a fait passer dans leurs études le reste à charge, c'est-à-dire la charge contrainte du logement, de 18% à 27% devant l'alimentaire. Est-ce que ça veut dire demain que finalement on aura cette équation un peu manichéenne entre payer son loyer ou manger ? Et également les 20% d'étudiants qui ont renoncé là à leurs études faute de logement, indépendamment des contrats à durée indéterminée qui ne se signeront pas faute de logement. Et en même temps, on a un marché de la construction dont le marché s'est rétracté depuis 60% dans certaines régions. On a des records de défaillance d'entreprises, aménageurs privés, promoteurs, bureaux d'études techniques, architectes, etc. Absolument incroyable. Face à une demande qui a explosé, il y a un problème quelque part là.
Ah, c'est sûr.
Comment on peut avoir un marché aussi dynamique, une demande aussi forte, produire si peu de logements ? Est-ce que la faute est politique ? Est-ce qu'elle est liée à une succession finalement de normalisation, d'inflation réglementaire, technique, qui a obéré finalement cette capacité ? On a brisé une machine qui finalement fonctionnait pas forcément si mal que ça. Qu'est-ce qui se passe dans le Landerneau ? Et est-ce que, et ce sera la fin de ma question, c'est est-ce que le salut viendra, puisque vous allez solliciter les candidats à l'élection présidentielle dans pas longtemps. Aujourd'hui, vous faites partie d'un panel de 5 entrepreneurs sur l'ensemble du territoire. Bravo d'ailleurs et merci de le faire. Où on en est et quel type d'interrogation cela suggère ? Je précise que ça concerne votre entreprise, la nôtre et l'ensemble de l'économie générale du secteur.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, un signe qui est un peu triste, c'est que dans les questions que nous allons poser, il n'y en a pas sur le logement. C'est quand même un signe.
Non.
Non, parce que
incroyable.
En fait, oui, c'est incroyable. Mais c'est, si vous voulez,
c'est voulu.
Non, c'est pas du tout voulu. C'est simplement que le temps est très compté. Il y a 7 candidats en face de nous, et il y a des sujets qui sont des sujets typiquement qui touchent toutes les entreprises, et, parce que le logement, ça touche tous les citoyens et beaucoup d'entreprises.
Et les entreprises.
Un énorme secteur. Vous avez tout à fait raison.
Il y a 20% des entreprises qui arrivent à recruter et qui donc ne se développeront pas.
Je vous confirme. Et on a toujours dit qu'en bâtiment va tout va. Parce que derrière, c'est toute une chaîne de valeur qui se crée. Mais pour autant, il a fallu trier dans les thèmes. Et dans ces thèmes-là, le logement n'en fait pas directement partie. Et puis ça dépend aussi du panel de chefs d'entreprise avec leur sensibilité. Et moi, j'ai été sollicité plus sur la question de la dette, puisque c'est un des sujets quand même qui touche l'ensemble derrière. En fait, je pense que trop souvent, et beaucoup de politiques disent « oui, on va simplifier ». Moi, j'ai fait partie de plein de comités, de commissions sur la simplification. Je me suis bien épuisé là-dessus. Je pense qu'on se trompe de débat. La normalisation, elle vient très souvent d'abord des industriels. Arrêtons de nous mentir, hein. Ce sont les industriels qui très souvent poussent à une certaine normalisation, de temps en temps pour éviter d'ailleurs d'avoir des concurrents qui arrivent et qui gagnent des parts de marché. Donc balayons d'abord devant notre porte et essayons d'arrêter de demander plein de choses et après de demander son contraire. Mais si vous voulez, le discours simpliste qui est de dire « ah oui, c'est beaucoup trop complexe, il faut qu'on simplifie à fond la conception même d'un bâtiment et tout ».
Mais c'est vrai ça.
Non. Ça ne marche pas.
Comment ça ?
Non, pour une raison très simple, c'est construire sur la ville, reconstruire quelque chose en réhabilitation. Tous les promoteurs vous diront que c'est beaucoup plus risqué et compliqué.
Non, mais c'est complexe. Non, mais personne ne nie la complexité.
Donc,
je parle d'un assouplissement, par exemple, les autorisations d'urbanisme, capacité de changement de destination. Voilà.
J'y arrivais, Sylvain. Je pense que ce n'est pas la complexité technique, c'est ce que je voulais vous dire.
Merci.
C'est-à-dire que préparer le
dossier. On sait faire, en fait.
Exactement.
Mais oui.
On sait faire. Certes, ça coûte un petit peu plus cher en amont. Mais par contre, derrière, on s'est déroulé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, tous ceux qui vont se concentrer sur une normalisation, c'est pour ça que je fais attention à la normalisation, les normalisations thermiques, acoustiques, tout ce qui fait que pour les gens, la vie est supportable après parce que le confort d'été est assuré, etc. Tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui ne va pas, c'est une fois que le dossier est prêt. Une fois que le dossier est prêt, vous avez une dizaine de commissions qui vont étudier votre bazar avec des calendriers qui ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, vous êtes parti dans une demande d'autorisation d'urbanisme extrêmement compliqué. La deuxième chose, c'est que si jamais il y a des recours, la loi de 2018 disait bien, ça doit être traité dans les 10 mois. Aujourd'hui, c'est 24 mois, je crois, la moyenne. Pendant tous ces temps-là, alors la FPI avait fait une étude disant que les recours non traités dans les délais, ça représente à peu près 30 000 logements qui sont bloqués en permanence. Vous voyez, c'est un curseur. 30 000 logements, vous imaginez le nombre de familles qui attendent. Donc, clairement, si on a quelque chose à améliorer, elle est d'abord là-dedans. Moi, si j'aspirais à une chose, déjà qu'on commence par ça, c'est que au moment où on dépose une demande de permis, le délai soit fixe pour toutes les commissions, tout le monde ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas en séquentiel, mais en parallèle, et que si jamais ils n'ont pas répondu dans les délais, c'est octroyé.
Ou même tous ensemble, dans une seule et même commission.
Alors, dans des commissions qu'on peut regrouper, mais après, bon, les pompiers ne fonctionnent pas exactement de la même façon.
Non, mais je veux dire, voilà.
C'est pas très grave si... Encore une fois, on sait, par les voies électroniques, on sait très bien changer les documents et tout. Ce qu'il faut, c'est que tous aient le même délai, qu'il n'y ait pas des délais supplémentaires, que s'il n'y a pas de réponse, c'est un octroi. Et prenons le risque que de temps en temps, il y ait des erreurs, c'est pas très grave, il faut savoir prendre des risques. Et surtout, aussi, s'il y a des recours, parce qu'on sait aussi le problème des... Alors, les recours abusifs, ça représente quelques pourcents, hein, c'est pas grand-chose, mais pour autant, ça bloque quand même beaucoup de
choses. Alors, justement, avec Jean-Baptiste, on se posait la question de savoir quelles étaient les questions que vous alliez poser.
Oui.
Aux candidats, mais là vous venez de répondre finalement à ma question, tout est politique et ce sera que politique, le fait d'uniformiser les délais justement d'attente pour aller et accélérer. La complexité ne vient pas de la technique, puisque nous on sait faire, mais seulement si on était un peu dédouané de cette lourdeur administrative, ça irait bien plus vite. Les questions que l'on va poser.
Eh bien oui, en fait, l'idée, c'est de savoir, vous, très concrètement, ce que vous en attendez, finalement, de cet échange avec les candidats qui seront présents. Vous espérez ressortir avec quel état d'esprit, finalement ? Oui. Et parce, qu'ils sont de... parce qu'ils sont en campagne, et quel type de, oui. vraiment, d'interpellation vous voulez avoir ?
C'est quoi la question que vous allez leur poser ?
C'est... Alors, je peux pas, c'est normal, je vais me garder la question.
Réserver la primeur.
Oui, je vais la réserver. Sachant que je ne pose pas, et nous sommes cinq, et très différents, c'est ça qui est intéressant, le panel est vraiment très différent, nous ne posons pas des questions à des candidats en particulier, nous les posons, et puis la modératrice décidera à qui elle considère
d'attribuer la question.
D'attribuer la question, et puis de la relayer à différents. Quand on pose des questions à des bêtes de scène politiques, il faut y aller avec énormément d'humilité. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer de poser une question claire, précise, et après, elle nous échappe.
Oui,
et moi, je pars avec ce principe-là en me disant, de toute façon, j'aurai pas la réponse que j'attends. Mais c'est pas grave. J'avais des amis qui me disaient, comment est-ce que tu
penses... C'était pas ma question, mais c'est ma réponse.
Mais on se souvient tous de M. Marchais qui disait ça. Et en fait, si vous voulez, c'est le battement d'aile de papillon. C'est d'essayer de dire, c'est ça les sujets qui sont importants.
Ouais,
c'est de marteler tout le temps quels sont les sujets qui sont importants.
C'est pas tant la réponse que poser la question. Quoi.
Que de poser la question, et aussi de voir le comportement. Parce qu'il y a souvent eu dans des réponses, dans la vie politique, des personnes qui, à un moment, laissaient échapper, tant par le comportement que par la réponse, une tendance forte. Et cette tendance, elle est importante à percevoir.
Et à l'imprime.
À percevoir, exactement.
Voilà, on va devoir conclure cette interview. On voulait vous avoir absolument, bien évidemment, on vous écoutera avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le patron de J'Expertise. On mettra d'ailleurs l'URL de J'Expertise. Voilà, vous travaillez avec l'ensemble de l'économie générale du bâtiment. Et c'est une très très bonne chose. Et merci également d'être venu sur le plateau, Éric Malenfer.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À suivre une émission que l'on va mener dès 10h avec Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement, le directeur général également de INLI sur le logement intermédiaire. On va parler logement et surtout on va parler logement et reparler du logement. C'est tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.